Bonjour, bienvenue à tous pour cette quatrième conférence de la Cité de l'immigration dans un cycle que Benjamin Stora a créé avec Alexis Corbière. On vous remercie d'être là si nombreux. On va s'interroger sur un sujet qui est très important dans cet établissement, qui est comment sortir du choc des mémoires, et on va le faire à partir d'un livre que viennent de faire paraître nos invités de ce soir, l'historien Benjamin Stora, qui préside la Cité de l'immigration, et l'écrivain Alexis Génie. Ce livre s'appelle « Les mémoires dangereuses ». Avant de les faire dialoguer l'un et l'autre, et de reparcourir et peut-être de développer certains des thèmes du livre, ou certains thèmes qui n'y sont pas d'ailleurs également, je vais juste rappeler en quelques mots la manière dont vous êtes venu à faire ce travail en commun. Lorsque vous avez publié votre célèbre « Art français de la guerre » en 2011, Benjamin a été l'un de ceux qui vous ont défendu. Alexis l'a fait remarquer, je crois que c'était la première fois qu'un roman traitait en partie de la guerre d'Algérie et se voyait récompensé par un prix si important. Et vous vous êtes rencontrés, et ensuite ça a donné lieu à ces dialogues croisés qui ont été réalisés entre l'été 2014 et février 2015, et qui sont sortis donc en librairie il y a maintenant 3 semaines, dans le courant du mois de janvier, évidemment à la suite d'une année marquée par une sanglante violence terroriste sur le territoire français. Alors évidemment, vous poursuivez un objectif, on pourrait dire métapolitique, un objectif culturel, qui est de vous interroger sur les retours du refoulé dans la mémoire française. Vous espérez aussi que votre dialogue produise des effets concrets, embraye sur le réel, pour désamorcer la guerre des mémoires qui semble aujourd'hui faire rage. Et je vais vous demander, peut-être en me tournant d'abord vers vous, Alexis Génie, ce que vous avez appris au gré de ce dialogue avec Benjamin, ce que vous avez appris de l'état moral, psychologique de la société française d'aujourd'hui.
Bien. Elle va pas très bien, cette société. Elle va pas très bien parce que elle méconnaît son histoire, elle a des doutes sur son présent et elle se voit pas d'avenir. Je suis un petit peu raide dans mes avis, mais c'est quelque chose qui est frappant et inquiétant. D'ailleurs, c'est même étonnant que cela nous arrive à nous, Français. J'en discutais un jour avec un Allemand qui me dit « Mais c'est quand même étonnant, vous qui avez toujours été une nation forte, admirable, et là, c'est quoi ces doutes ?» Et c'est vrai, en effet, c'est quoi ces doutes ? Et il me semble... Alors ça, c'est quelque chose que j'avais creusé, en effet, pour un travail romanesque, que j'ai ensuite retravaillé avec Benjamin. Il me semble que notre rapport à l'Empire, notre rapport aux colonies et le drame algérien, le drame très compliqué qui s'est déroulé en Algérie, sont un traumatisme fondamental dans notre société.
Et je vous interromps, traumatisme méconnu, parce qu'en fait, vous l'écrivez dans les dialogues avec Benjamin, que lorsque vous avez écrit votre roman, L'art français de la guerre, vous êtes documenté par vous-même, et vous avez été frappé, au moment de sa parution, de l'immense écho que votre livre a recueilli, parce que vous appelez l'ignorance extraordinaire des gens sur l'histoire coloniale en général.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez étonnant, puisque j'ai pu écrire un roman qu'on a pu trouver bien documenté, alors que je n'ai pas passé des journées entières dans des bibliothèques difficiles d'accès. J'ai utilisé ce qui est en accès libre. Je ne suis pas historien, pas du tout. Je suis un romancier qui voulait écrire quelque chose sur les guerres coloniales. J'ai utilisé ce qui était autour de moi, ce qui était totalement accessible. Et autour de nous, de façon totalement accessible, on trouve toute l'histoire, mais simplement, personne n'est en mesure de la raconter. Je me suis rendu compte, en fait, en le faisant, qu'on n'arrive pas à raconter cette histoire. Et cette histoire, elle est prise en charge par des mémoires douloureuses, des mémoires fragmentées. Et ces mémoires douloureuses sont dangereuses, comme le dit ce livre. Et ça, c'est terrible parce que cet événement qui a eu lieu il y a 50 ans, continuent de vivre souterrainement, continuent à créer des failles dans notre société et continuent à nous empêcher de nous voir un avenir.
Merci beaucoup. On va évidemment explorer tous les thèmes que vous abordez dans votre livre. Peut-être demander en introduction aussi à Benjamin des premières impressions qu'il retire de ce dialogue avec vous, de la rencontre avec... Après tout, c'est pas tous les jours qu'on reprend un travail ancien, le transfert d'une mémoire, pour le confronter à la manière dont un écrivain, lui, peut se rapporter à l'actualité. Après tout, vous êtes d'abord un historien, vous êtes un scientifique, enfin, en tout cas, vous êtes le scientifique d'une science humaine, vous n'êtes pas un écrivain de... vous ne fabulez pas, vous n'êtes pas un écrivain de roman ou un poète. Quel enrichissement vous a apporté, Benjamin, le regard très spécifique, très aigu aussi, sur la guerre d'Algérie d'Alexis Gény et sur la mémoire de la guerre d'Algérie telle qu'elle travaille la société française aujourd'hui.
Avant de répondre à la question, d'abord, je voudrais remercier le public, très nombreux, comme d'habitude, puisque c'est la sixième conférence que nous faisons cette année.
Et non la quatrième, non, j'ai la dit. Quatrième. Et voilà, j'aurais dû réviser mes fiches.
Voilà, absolument. Remercier Alexis Lacroix, du journal Marianne, qui nous ont accompagnés et qui nous accompagnent dans cette histoire, dans cette aventure depuis maintenant plusieurs mois. Donc ça, c'est important. Remercier le Bondy Blog, qui nous a suivis dès le début. Je fais d'abord tous les remerciements avant de commencer à répondre. C'est comme quand on remercie le préfet, le ministre, etc. Donc remercier le Bondy Blog, qui a fait un gros travail d'enregistrement et de mise en ligne de toutes nos conférences. Donc vous pouvez trouver sur Dailymotion, si ça vous intéresse, le débat qu'on a eu par exemple avec Patrick Veil et Régis Debray sur la question des frontières, puisqu'on a eu un débat sur les frontières. Je crois d'ailleurs que le journal Marianne prochainement fera un numéro spécial sur la question des frontières.
Dans Marianne, effectivement, Benjamin, on va retrouver de larges extraits du débat qui était d'ailleurs passionnant, que vous avez eu avec Régis Debray ici sur la question des frontières.
Alors maintenant, sur les conditions, les circonstances de la rencontre, bon, c'est vrai que pour un historien, rencontrer un écrivain, c'est-à-dire qui travaille sur la fiction, donc sur l'imaginaire, c'est toujours très enrichissant, parce que évidemment, les historiens essayent au maximum de s'approcher de la vérité. Je dis pas qu'ils y arrivent, ils essayent, disons, de s'accrocher aux faits, d'essayer de déterminer avec le plus de rigueur possible, avec méthode et rationalité. Enfin, on essaye, disons, d'établir, disons, une vérité des faits historiques à travers les acteurs, les chronologies, les personnages, etc. Alors que le romancier, lui, à partir de cette matière historique, a, disons, un champ beaucoup plus large d'exploration, d'inventivité, de création. Et puis, bien sûr, il faut le talent de l'écriture. Et c'est ce qui a été le cas d'Alexis Gény, puisque son roman La Français de la guerre.
Vous pouvez peut-être nous dire ce que vous aviez aimé dans ce roman.
Ah, bah oui, bah
c'est introduction.
Bah c'est le côté un peu torrentiel du roman, moi, qui m'avait littéralement emporté, parce qu'il y a une écriture absolument extraordinaire. Bon, il faut rappeler aussi que ça a été le premier roman d'Alexis Gény et qu'il l'a envoyé à Gallimard, qu'il l'a publié aussitôt. Et premier roman et prix Goncourt, c'est quand même très rare, c'est quand même extraordinaire. Donc, ce qui prouve à quel point son écriture a touché directement les jurés et le grand public, enfin le public au sens large, et donc y compris des gens qui travaillent sur cette histoire depuis longtemps comme moi et qui ont vu beaucoup de choses qui correspondent à la réalité par le biais de la fiction. C'est ça qui est à la fois extraordinaire et troublant. Bon, donc la nécessité de se voir, de se confronter, de discuter à partir, disons, d'un épisode, d'une histoire particulière qui est naturellement l'exemple algérien. Donc ça a été pour moi très très important, même si j'avais déjà travaillé un peu sur la fiction, notamment dans le monde du cinéma avec le film Indochine ou d'autres films, etc. Donc ça, c'est la première chose directement. La deuxième chose, c'est sur la question soulevée, on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a, à travers ce que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois, il y a, disons, une interrogation, une inquiétude, voire une angoisse sur la société dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous vivons au sens large. Et il faut rappeler que ce dialogue que j'ai eu avec Alexis, c'est un dialogue que nous avons commencé avant les attentats. Donc on a été obligé
Il a commencé à l'été 2014.
C'était essentiellement l'été 2014. Et puis, on s'apprêtait à sortir le livre quand il y a eu des premiers attentats. On a différé, on a réfléchi. Parce que, effectivement, nous, on avait réfléchi beaucoup dans notre conversation sur ce que représentait le passage, comme il l'a dit à l'instant, des mémoires douloureuses aux mémoires dangereuses, à partir de la question algérienne, notamment portée par l'extrême droite dans ce pays, parce que c'est quand même ça aussi le cœur du livre. Et puis tout à coup, on a été pris à revers, hein, par la question du terrorisme, de la question de la place de l'islam dans la société française, enfin toutes ces questions.
Mais justement, ce qui fait le prix de votre livre, hein, et aussi on peut saluer Albin Michel, qui l'a tout de suite publié, qui lui a donné une grande audience et une grande publicité, c'est le fait que vous éclairez autrement justement cette scène terroriste qui nous occupe à juste titre, hein, vous l'éclairez à partir de cette réfraction ou de cette rétroaction de la mémoire de la guerre d'Algérie. Et il faut que vous nous expliquiez d'ailleurs tout de suite, je lis simplement une citation qui est extraite du transfert d'une mémoire, texte que vous reprenez d'ailleurs à la fin du recueil, sur le sudisme, et donc je vais vous écouter dans un instant sur la question du sudisme. Le sudisme, ce n'est peut-être pas ce que croient certains de nos auditeurs, c'est pas une revendication de Félix Brige à la Frédéric Mistral pour l'autonomie du sud de la France, pas du tout, c'est justement une idéologie d'extrême droite qui est autre chose qu'une simple appartenance géographique, écrivez-vous. Il est le signe d'un état d'esprit, d'une mentalité très particulière, apparu en France dans les combats désespérés pour la sauvegarde de l'Algérie française. Et vous ajoutiez donc dans ce texte, Benjamin, un imaginaire sudiste, analogue à celui porté par le petit blanc des États-Unis, a pu se former, s'incruster durablement à l'intérieur de la société française, avec ses références, ses mythes, ses figures emblématiques et sa guerre de sécession à la française, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. Alors on pourrait vous objecter tout de suite, vous allez y répondre, qu'au fond, c'est peut-être pas la priorité. C'est-à-dire que face au djihadisme, face à la menace que représente Daesh, est-ce que c'est le moment d'aller s'interroger sur la rémanence ou le retour d'une idéologie d'extrême droite qui avait agité les partisans les plus extrémistes du maintien de l'Algérie en France?
Alors, il y a plusieurs niveaux dans le questionnement, bien entendu. Nous, on s'est interrogé, enfin moi je m'étais interrogé effectivement il y a 20 ans dans le transfert d'une mémoire sur la fabrication, création, constitution d'une idéologie politique importée s'installant de manière durable dans la société française, grosso modo, et qui était celle d'une société démocratique proclamant l'égalité politique, mais dans une situation où on vit séparé, égaux mais séparé. C'est très exactement d'ailleurs le mot d'ordre et la signification de ce qui a été dit aux États-Unis à la fin du 19e siècle, égaux mais séparés. Et donc c'était quand même quelque chose qui m'avait beaucoup troublé. Et on pourrait objecter quand même à ce trouble le fait que la priorité n'est peut-être pas celle-là. La priorité, c'est de réfléchir davantage à l'autre versant qui préoccupe beaucoup de monde, et à juste titre aujourd'hui, qui est la persistance, maintien, montée en puissance de l'islamisme radical politique. Bon. Et on pourrait objecter aussi, je rajoute les objections, qu'il y a peut-être dans cette façon de réfléchir une inclinaison, une surévaluation de la question algérienne dans la pensée politique française aujourd'hui. On pourrait objecter ça aussi, c'est-à-dire une surévaluation.
Vous allez encore plus loin que moi.
Je vais plus loin dans la critique de mon propre récit historique, donc ce qui permet de désamorcer, c'est une fameuse technique politique, ça. Hein. C'est-à-dire, on surévalue.
C'est une incroyable habileté discursive.
De désamorcer par avance la critique. En fait, je répondrai à cela. Enfin, Alexis reviendra bien sûr sur ces questions-là. Moi, je crois qu'il y a une exemplarité du modèle algérien. C'est le problème, ça. Il y a une vraie exemplarité. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire, c'est une séquence d'histoire qui a concerné et qui concerne, à la différence des autres séquences d'histoire coloniale, qui concerne des millions et des millions de personnes dans la société française. C'est pas simplement une colonie comme les autres, comme le Maroc, l'Indochine, le Sénégal, etc. Non, des millions et des millions de personnes. C'est pas n'importe quoi. C'est une page de l'histoire française où on sont concernés, bien sûr, les Algériens, bien sûr, les Européens d'Algérie qu'on va appeler les Pieds Noirs, bien sûr, les Harkis, forces supplétives musulmanes dans l'armée française, bien sûr, les appelés, 1,5 million, etc. Et j'avais à l'époque, dans La gangrène et l'oubli, un autre de mes livres de 1991, signalait déjà à l'époque que 5 à 6 millions de Français étaient directement concernés par cette question. C'est pas n'importe quelle proportion, c'est pas n'importe quel poids physique dans la société française. Et ça, malheureusement, lorsqu'on parle de traumatisme, de mémoire douloureuse, etc., on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a une sorte de considération abstraite de la question. Il faut être très pratique, il faut être très physique, hein, pour voir que l'exemplarité, entre guillemets, du modèle de la séquence algérienne dans la société française, elle pèse par le nombre de personnes concernées directement, pas indirectement, mais directement par cette histoire, ce qui est quand même extraordinaire. Et puis, que cette histoire, elle nous concerne encore plus directement parce qu'elle a laissé des traces qui sont celles des institutions de la Ve République dans lesquelles nous sommes toujours. Alors, nous vivons toujours.
Ce qu'on peut dire, d'ailleurs, je l'évoquais avec Alexis, dans le dialogue avec Alexis, mais c'est que, évidemment, l'Algérie française, c'était la colonie, c'est-à-dire c'était plus de l'Empire que de la République.
Oui, c'est ça. Et donc, alors, c'est un deuxième aspect de la discussion.
Et alors, vous allez jusqu'à dire ce qui est passionnant, mais vous allez peut-être le développer en écho avec Alexis, mais qu'au fond, ça a laissé des traces dans la Ve République elle-même, qui est jusqu'à un certain point un mixte, enfin un mélange ou un entre-deux entre la République et la colonie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ça signifie par là que ce sont des institutions qui ont été créées dans une situation qui était véritablement un état de guerre. Les institutions de la Ve République, c'est-à-dire qui donne le plein pouvoir au président de la République par l'article 16 et qu'aucun gouvernement depuis 58 n'a jamais abrogé. C'est-à-dire, personne n'a jamais touché à tout ça, personne n'a jamais bougé cet édifice institutionnel qui a été créé dans une séquence historique très, très particulière. Et ça, c'est fondamental. Deuxième aspect, c'est que nous sommes vraiment sortis de la colonisation, bien sûr. La décolonisation a eu lieu, l'Algérie est devenue indépendante, comme tous les autres pays, colonisés, etc. Mais est-ce que la décolonisation signifiait pour autant le passage à la République exemplaire ? C'est tout l'enjeu du livre était là. Enfin, c'est la discussion avec Alexis, etc. C'est-à-dire que, oui, il y a eu décolonisation, mais est-ce que pour autant, il y a eu, disons, un décloisonnement des imaginaires sur la question coloniale ? La réponse, elle est non. La France n'est pas une société coloniale aujourd'hui, c'est évident. Elle n'a rien à voir avec le modèle, d'une société coloniale de la colonie de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e, bien évidemment.
Mais les mémoires sont figées.
Mais les représentations, mais les imaginaires, mais les traces laissées par une histoire très longue, un siècle et demi, c'est pas trois ans, un siècle et demi, ont laissé des traces, ont laissé des comportements, des attitudes, des formes de représentation qui sont très puissantes. C'est-à-dire dans la société dans laquelle nous vivons, ce qui n'excuse ni n'explique rien du point de vue de ceux qui ensuite vont passer au terrorisme, au djihadisme, mais il faut en avoir conscience simplement. Et on ne peut pas évacuer en permanence cette question-là et avoir un point de vue ahistorique sur cette question-là. Il faut le prendre à bras-le-corps. Une fois qu'on prend ce problème à bras-le-corps, alors oui, bien sûr, qu'il faut traiter d'autres questions tout aussi importantes, la place de l'islam dans le nationalisme algérien, et je suis prêt à en discuter, je l'ai fait d'ailleurs sur France Culture récemment, discuter bien sûr des filiations ou non, ou des ruptures ou non, entre ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, mais encore faut-il avoir présent à l'esprit ce socle historique fondamental qui construit, disons, une identité politique contemporaine de la France, et c'est pas une surévaluation, c'est une réalité historique au niveau des institutions, au niveau du personnel politique, au niveau des imaginaires construits dans la société sous la forme autoritaire et qui empêchent le passage démocratique de cette société sur le plan réel et non pas sur le plan abstrait, non pas de manière abstraite. Oui, il y a une influence sur ce plan-là. Oui, il y a un manque d'habitude, disons, démocratique, disons, dans cette société qui n'est pas parvenue de la décolonisation à passer, disons, à la démocratie ou à la République exemplaire. C'est ça la vraie question pour moi.
Et alors, en quoi l'art français de la guerre a-t-il inauguré pour vous une façon, justement, de déverrouiller, de revenir sur cet oubli programmé, cette volonté d'oubli dont vous parlez, hein ?
Alors, un petit retour en arrière à propos de... Bon, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur tout ce qu'il dit, sur la Ve République, hein, elle est quand même issue d'un coup d'État militaire soft qui a mis en place De Gaulle dans le seul but de garder l'Algérie française. On en oublie finalement l'origine et on garde cette institution qui était en fait une institution qui a été créée pour ça. Donc, autre chose par rapport à Daesh et compagnie. On a besoin de réfléchir, on a besoin de penser. Je suis effondré quand j'entends à l'Assemblée notre Premier ministre préféré dire pas question de comprendre, parce que comprendre c'est un petit peu je ne me rappelle plus comment il dit, non voilà, pas question de de comprendre, parce que comprendre c'est un petit peu excusé, voilà, je me mélange dans les termes tellement ça m'énerve, parce que c'est un peu excusé, il n'y a pas d'excuse, etc. Ça veut dire quoi, pas comprendre? Ça veut dire que si on veut faire voler un avion, on refuse d'étudier les lois de la mécanique des fluides. On va s'écraser. Il y a nécessité de penser, nécessité de comprendre. Et puis il y a nécessité d'arrêter fermement tout terrorisme. Pas de problème. Mais ce bouquin essaye de comprendre quelque chose à ce qui se passe en France en ce moment, et essaye de lancer une idée qui n'est pas obligatoirement, qui au départ n'était pas très partagé, sur cette origine coloniale du Front National, et non pas une origine fasciste, nazie, etc. L'héritage terrible de cette guerre d'Algérie, de cette affaire algérienne, c'est aussi la difficulté de penser l'islam en France. Bon, il y a en France, on ne sait pas trop combien, mais à la louche, 5-6 millions ou 3 millions de musulmans, on ne sait pas trop. Enfin là, bon, quelque chose comme ça. Bon, ils sont français, ils sont musulmans, et alors, comment ça se fait que ça a posé un véritable problème? Le but, quand même, le but, c'est que dans X années, on puisse dire, un certain nombre de nos concitoyens sont musulmans, et alors, la République est aveugle à ce genre de choses, et ils font partie de l'édifice républicain. On va me dire, c'est utopiste, etc. Bah, de toute façon, il y a nécessité d'utopie pour faire avancer les sociétés. L'impossibilité de penser l'islam en France, à notre avis, j'engage un peu Benjamin là-dedans, mais à notre avis, c'est justement un héritage de cette affaire algérienne.
Alors on va revenir après sur les ambiguïtés peut-être du nationalisme algérien, puis il y a des livres qui soulignent aussi peut-être l'impensé religieux qui l'habitait, notamment le livre de mon confrère Jean Birnbaum, qui est intéressant, qui est discutable, mais qui est intéressant. Mais en tout cas, vous écrivez, Alexis, que ce que l'on retrouve dans l'imaginaire français actuel, hein, qui nous interroge justement cet imaginaire plein de contradictions, mais aussi plein de fractures, et ce qui fait résonner la rhétorique du Front National, c'est, écrivez-vous, la dangerosité des populations arabes, une présence obsédante qui donnait ce sentiment d'assiégé ressenti par la population européenne d'Algérie. Donc il faudrait comprendre, si on vous suit, hein, cette espèce d'obsession de la question identitaire qui rend une partie du débat public français irrespirable, hein, il faudrait le comprendre comme une sorte de retour du refoulé de la guerre d'Algérie.
Alors, c'est quelque chose d'un peu étrange, parce que bon, ces histoires de refoulé, c'est un petit peu inconscient, quand je travaillais sur le roman, j'étais frappé par les ressemblances extraordinaires qu'il y avait entre, l'imaginaire pied-noir, à l'époque de l'Algérie française, et l'imaginaire Front National. Je parle bien d'imaginaire, je ne parle pas de programme, je ne parle pas de projet. L'imaginaire. Et je trouvais des correspondances extraordinaires avec cette obsession justement de l'assiégement. Alors, autant en Algérie, quand il y avait 1 million de pieds noirs et 8 ou 9 millions de on ne savait pas comment les appeler à l'époque, de musulmans, on pouvait imaginer qu'en effet, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'assiégement, mais dans la France contemporaine, ça paraît bizarre, parce que la démographie n'est pas la même. Même si on a inventé depuis là, cette espèce de grand délire qu'est le grand remplacement. Mais en tout cas, il y avait des correspondances étonnantes entre ces imaginaires. Et moi, qui travaillais sur cet imaginaire, moi je travaillais quand ce livre s'appelait « L'art français de la guerre », c'était en fait un livre sur l'imaginaire français de la guerre, sur l'imaginaire français de la violence, sur l'imaginaire français de la force. Cette espèce de fil rouge qu'il y a dans toute l'histoire de France, avec une passion pour la force employée un petit peu en dépit du bon sens, qui est extrêmement chevaleresque, qui est extrêmement absurde, extrêmement inefficace et extrêmement dévastatrice. Et quand on voit comment finalement a été gérée la décolonisation, on se rend compte que toutes les occasions de négociation ont été à chaque fois perdu, dans une sorte de fascination pour la force. Et quand on voit également toute la gestion des problèmes de banlieue pour faire vite, quand on voit toutes les occasions possibles qui sont manquées, où on essaye justement de taper le poing sur la table, de faire usage de la force, etc., plutôt que des pratiques de négociation, d'inclusion, etc., on se dit, mais voilà, l'imaginaire français n'a pas changé. Il est toujours le même, toujours aussi violent et inefficace.
Alors, est-ce qu'on peut parler plus précisément du Front National ? Parce que c'est vrai que vous rappelez, avec Benjamin, des déclarations du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui s'est toujours porté aux côtés des pieds noirs et des harkis, dans un anti-gaullisme frénétique. Vous rappelez notamment cette déclaration de Marine Le Pen, qui reprenait d'ailleurs à son compte cette ligne-là, en tout cas le 9 novembre 2014. Elle disait « Entre le général de Gaulle et moi, il y a la guerre d'Algérie. J'ai beaucoup de considération et je partage la souffrance des pieds noirs, des harkis, qui ont eu le sentiment d'être trahis. Quels sont les effets, d'après vous, dans la société française, de ce type de discours contemporain ?» Puisque cette citation date de novembre 2014.
Alors ça, c'était une réaction à Philippot, qui est un type d'origine un peu gaulle, enfin qui a une fascination pour De Gaulle,
qui se réclame plus de De Gaulle.
Voilà, il se réclame de De Gaulle, mais il est une sorte de je sais pas qui il est. Il fait pas partie de cette tradition profonde du Front National, même s'il en est un des
dirigeants. Ça se fait plus dans un dirigeant chevènement gaulliste. Hein.
Voilà, qui fait carrière dans le Front National. Mais donc Marine Le Pen rappelle bien la faille qui la sépare de Gaulle, cette faille algérienne, comme son père également était séparé de De Gaulle par cette faille algérienne. Et ce qui montre, dans l'imaginaire historique du Front National, le côté central de l'Algérie, et qui se rejoue de façon contemporaine avec la problématique de l'islam. C'est aussi on insiste sur cette filiation coloniale pour montrer que, par exemple, la dédiabolisation qu'a opéré Marine Le Pen, qui consistait à virer son père pour propos antisémites, ne fait qu'enlever quelque chose d'assez superficiel. C'est-à-dire que, à mon sens, l'origine, les racines du FN étant plutôt coloniales, la problématique, c'est par rapport à l'islam aux Arabes. Les Juifs, c'est quelque chose d'autre, c'est à mon avis l'imaginaire années 30 de Jean-Marie Le Pen lui-même. Donc, nettoyer cet antisémitisme que Marine Le Pen n'éprouve sûrement pas, donc elle est tout à fait sincère là-dedans probablement, ne change rien aux racines de l'imaginaire du Front National. C'est-à-dire que dans l'imaginaire du Front National, l'arabe n'est pas à la place du juif dans un rejet du nazisme. L'arabe, elle est à la place de l'arabe. Et il est le problème depuis la colonie. Et il y a cette tradition qui continue. Et la haine de De Gaulle, qui est quelque chose qui est très très fort dans le monde pied noir, qui finalement souffre, à juste raison d'ailleurs, d'avoir été chassé finalement d'Algérie. Mais le problème, c'est que on peut remettre en cause De Gaulle, mais si franchement on refuse catégoriquement cette figure-là, on se place dans un roman national alternatif, dans autre chose, et qui pose un vrai problème. C'est-à-dire que là, il y a une sorte de fil historique différent qui est suivi par cet imaginaire du Front National.
Benjamin Stora.
Oui, enfin, ce livre, il veut effectivement quitter le terrain de l'essentialisation religieuse pour revenir à l'histoire et à la politique. C'est-à-dire qu'on essaye de revenir à un fil historique et non pas rester, disons, dans des considérations théologiques abstraites depuis des siècles qui feraient que l'histoire, en fait, est toujours la même. On est toujours dans les mêmes histoires, dans les mêmes refrains, dans les mêmes retours, etc. Or, il y a bien des histoires, il y a bien des retours d'histoires singulières, très particulières, à l'histoire de France, bien sûr, ou à l'histoire européenne, comme à l'histoire, d'ailleurs, des pays du Sud. Et le premier, disons, le premier projet, j'allais presque dire, de cette rencontre, de ce livre, c'est ça. C'est-à-dire, essayons de revenir à l'histoire et à la réalité. Sinon, ben, on reste dans des considérations qui, dans le fond, sont très à la mode aujourd'hui, puisque vous citiez tout à l'heure le livre d'un certain confrère.
Et puis, bon, qui est, des considérations qui sont un peu le cœur du débat identitaire qui sont, d'aujourd'hui.
Qui sont le départ, hein, ouais. Effectivement, c'est le cœur du débat identitaire où, dans le fond, la gauche française, les intellectuels français auraient, disons, sous-estimé la dimension religieuse du nationalisme algérien et, en fait, cette guerre d'indépendance vue du côté algérien aurait été un soulèvement islamiste, en fait, fondamentalement, et non pas un soulèvement politique, etc. Or,
là, vous nous le dites, en fait, un peu de manière oblique, ce qui ne vous paraît pas...
Alors, il y a effectivement...
Crédible, véritablement.
Hein. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une dimension religieuse incontestable chez les Algériens, sur la base, disons, d'une croyance, d'une culture et d'une affirmation de soi sur le plan, j'allais presque dire, familial et privé. Ça, c'est évident. Bon. Mais quand vous connaissez individuellement, comme c'est mon cas depuis 40 ans maintenant que je travaille sur cette histoire, mais quand vous connaissez individuellement la plupart des dirigeants politiques de cette insurrection, de cette révolte, de cette révolution, aussi Naït Ahmed, Mohamed Boudiaf, je ne vais pas tous les citer, Ali Haroun, Omar Boudaoud, etc., ils n'ont jamais, je dis bien jamais, conçu cette guerre d'indépendance comme une insurrection religieuse. Quand vous les connaissez à titre personnel, ce qui est mon cas, hein, et non pas de manière littéraire, journalistique, abstraite, je n'ai rien contre les journalistes, évidemment, mais c'est-à-dire sans jamais avoir rencontré tous ces personnages, dans le fond.
Vous avez le droit de les critiquer.
Sans jamais non plus rencontrer la famille de Messali, qui a été quand même un des grands dirigeants historiques, hein, du nationalisme algérien, sans avoir jamais rencontré Ferhat Abbas. Par parenthèse, la plupart de tous ces dirigeants étaient mariés avec des Françaises, hein, donc je précise quand même. Donc, il faut quand même connaître l'histoire réelle.
Et on peut le dire au passage, parce que ça, c'est sinon, pas dans votre livre, mais ouais. Leur culture était une culture, disons, progressiste, laïque. Marxiste.
Laïque. Donc, il y avait beaucoup de républicanisme là-dedans, il y avait beaucoup de socialisme. Bien sûr qu'il y avait du religieux, mais il y avait aussi du nationalisme. Il y avait du nationalisme arabe. C'était un mix de tout ça. Et aujourd'hui, vouloir réécrire cette histoire à l'aune d'un seul regard exclusif, qui est celui du religieux, en le séparant, disons, des autres catégories que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la République, la nation, le socialisme, la laïcité, oui, n'ayons pas peur des mots, pour beaucoup de ces dirigeants politiques, eh bien, c'est ne pas non seulement connaître l'histoire, mais c'est quelque part la déformer.
Et vous pensez que ça plaît
comme Krim Belkacem, par exemple, oui. Dans l'histoire de la révolution algérienne, n'a jamais voulu instaurer une théocratie. Ne parlons pas d'Aban Ramdan, qui a été assassiné par ses pairs, comme on le sait, en décembre 57 au Maroc. Aban Ramdan était un laïc, tout le monde le sait. Il n'a jamais voulu, disons, instaurer une sorte de dictature religieuse ou autre. Donc, moi, je veux bien qu'on ait des considérations, disons, de réécriture, d'interrogation, de remise en question, de tabou brisé. Bien sûr, il faut ne pas hésiter. Mais il faut le faire à partir de considérations de réalité historique.
Et pourquoi ça plaît autant? C'est parce que, justement, on est dans un choc des mémoires et donc les gens se raccrochent à des essentialisations.
On est effectivement dans une volonté d'essentialiser, bien sûr, dans une situation, malheureusement, de méconnaissance complète de l'histoire des autres. On est centré sur notre histoire sans connaître l'histoire des autres. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, je veux dire, de ne pas connaître à ce point l'histoire des autres. Et ne le pas connaître à ce point, ça signifierait, par exemple, inscrire les tueurs du Bataclan dans la logique de ceux qui ont voulu déclencher cette guerre d'indépendance contre la France, qui est une erreur, j'allais presque dire historique, au sens classique historique du terme, parce que, bien évidemment, tous ces gens qui ont fait ces assassinats que nous connaissons s'inscrivent dans une rupture par rapport à cette histoire-là. Ils sont dans cette rupture, hein, d'une histoire nationaliste algérienne. Ils ne sont pas dans une continuité. Quel que soit ce qu'ils peuvent expliquer, ils sont dans cette rupture, à la fois familiale, à la fois historique, à la fois politique et programmatique. Ils sont dans cette rupture. Dire l'inverse, c'est-à-dire nous sommes toujours dans la continuité, essentialisée, etc., c'est quelque part... non seulement ne pas connaître l'histoire des autres et la reconstruire, etc., mais quelque part, c'est encourager ceux qui sont dans ces fantasmes. Or, il faut dire et expliquer, notamment à la jeune génération, que les acteurs principaux de l'histoire de la décolonisation, pas simplement en Algérie, mais en Afrique, mais dans le reste du Maghreb. Je pense à la grande personnalité, par exemple, de Mehdi Ben Barka, je pense à Habib Bourguiba, je pense à Mohamed V, je pense à tous ces personnages, même les plus importants, n'étaient pas du tout dans ce type de logique politique lorsqu'on se donne un minimum la peine de regarder leurs déclarations, leurs textes, la façon qu'ils avaient de réfléchir ou autre. Un personnage comme Hossein Aït Ahmed qui vient de mourir récemment, des centaines de milliers d'Algériens sont venus lui rendre un dernier hommage récemment, était un personnage qui se situait absolument pas, disons, et tout le monde le sait, je veux dire, tout le monde le sait, ne se situait absolument pas, disons, dans cette thématique, puisque le mot d'ordre principal de son parti, par exemple en 1989-90, c'était ni État policier, ni dictature intégriste. C'était le mot d'ordre central de son parti, le FFS. Et maintenant qu'on vient de nous dire que nous avons eu une sorte de soulèvement religieux dans la guerre d'indépendance algérienne...
Qui n'aurait pas dit son nom.
Qui n'aurait pas dit son nom, qui était dissimulé un peu comme l'imam caché, je dis, là, franchement, revenons à l'histoire.
Voilà. Et donc vous le faites, évidemment, dans les mémoires dangereuses, et vous vous intéressez, vous, surtout... à l'autre camp, hein, c'est-à-dire à ceux qui deviendront les rapatriés d'Algérie et disons qui ont combattu souvent aux côtés ou dans les rangs de l'OAS et ils ont donc généré dans leur combat désespéré et radical de type fasciste en fait, ils ont généré une idéologie qui s'appelle le sudisme. Et évidemment aujourd'hui, on ne comprend rien à cette histoire-là si par parallèle, effectivement, vous avez raison de le rappeler, on rétro-essentialise, on essentialise de manière rétrospective la lutte laïque de la plupart des nationalistes algériens.
Je pense qu'il faut réhabiliter cet aspect laïque de la lutte des Algériens pour la transmettre aux nouvelles générations, notamment dans les quartiers, les banlieues, etc. Et c'est par déficit de transmission de cette histoire réelle que naissent les courants fondamentalistes et intégristes. J'insiste sur cet aspect.
On peut même aller plus loin, d'ailleurs, Benjamin, puisque là, on est dans un lieu de réflexion sur tous ces sujets. Ça fonctionne en miroir. C'est-à-dire que le sudisme et le fondamentalisme islamique se répondent l'un l'autre dans une sorte de complicité à distance.
Oui, parce qu'on est dans des espaces exclusivement identitaires. Parce qu'on n'est plus dans des espaces historiques de transmission, mais uniquement dans des face-à-face identitaires. C'est ça le problème, disons, du miroir et le fait de se tenir. Sur la question, bien sûr, du Front National, c'est qu'on a eu, à juste titre, pendant très longtemps, eu comme, disons, grille d'analyse historique et d'interprétation, ce qui était tout à fait vrai, notamment par rapport à Jean-Marie Le Pen, ça, Alexis vient de le dire, la question de Vichy. La grille de lecture vichysoise était tout à fait décisive pour comprendre notamment, bien sûr, l'antisémitisme professé par Jean-Marie Le Pen.
C'est-à-dire, pour le dire plus explicitement, on a tendu à ne faire du Front National que le parti des nostalgiques
de Vichy. Voilà, c'était ça, avec une sorte de rejet, de répétition dans l'antifascisme, etc. Or, le problème, c'est que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il portait, et il porte, un modèle de société qui est très complexe. Je disais tout à l'heure, c'est un modèle de société qu'il porte, qui est celle de l'assimilation radicale ou de l'égalité dans la séparation et dans la différenciation. C'est ça le modèle qu'il porte. C'est un modèle très complexe parce que on a, vous savez, les déclarations, je le cite dans ce livre de Jean-Marie Le Pen de 1958, où après avoir, pendant très longtemps, on le sait, refusé tout accès à la citoyenneté pour les indigènes musulmans dans l'Algérie française, tout d'un coup et brusquement, Jean-Marie Le Pen a défendu l'assimilationnisme républicain, mais complet. C'était naturellement un discours de circonstance, une sorte de ruse finale, pour dire grosso modo, au moment où, naturellement, en 1958, les choses allaient très mal, hein, quand même pour le devenir de l'Algérie française, c'était un moyen de signifier le fait qu'il était impossible de rentrer dans la cité française, fondamentalement. C'était un discours d'impossibilité, d'écart beaucoup trop grand et donc infranchissable. C'est ce modèle-là, en fait, qu'il propose. C'est-à-dire le fait d'un écart infranchissable par suite, disons, de différences culturelles trop puissantes. Cette espèce de culturalisme et d'essentialisme qui est l'inverse, par parenthèse, de ce qu'est la République. Parce que la République, c'est l'égalité politique.
Et pour qu'on comprenne bien, tous les discours actuels sur « mais en fait, les indépendantistes algériens étaient crypto-religieux, voire pré-islamistes », participent de cette espèce de ré-essentialisation.
C'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. On peut critiquer ce que je dis, bien entendu. C'est un débat que j'ai eu à France Culture, etc. On peut critiquer cela. Oui, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on est dans une sorte de retour, de c'est juste essentialisation, qui fait retour, disons, par suite d'une sorte de continuité et de fatalité historique déjà inscrite, où les choix, les bifurcations n'existent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bifurcation possible. Tout est écrit d'avance, tout est inscrit d'avance. Les peuples qui se mettent en mouvement pour leur liberté, en fait, ce qui est écrit d'avance, c'est qu'elles iront à la dictature. Donc ça ne sert à rien de se mettre en mouvement, hein, par parenthèse, à partir de là. Hein, donc il faut rester chez soi, tranquille, ne rien faire et tout accepter. C'est-à-dire que le discours de l'essentialisation, c'est un discours d'empêchement de mise en mouvement. C'est ça la question fondamentale, dans le désir qu'on peut avoir d'extension de la liberté. Et c'est cela, à mon avis, qui est regrettable et difficile dans le débat d'aujourd'hui. Alors évidemment, on me dira, oui, mais l'ennemi principal, le problème central aujourd'hui, c'est l'islamisme radical, politique, le terrorisme, etc. Bien sûr. Mais il faut aussi comprendre dans quelles sociétés vont exister et sur quel imaginaire fonctionnent ces terroristes, sur quel socle ils fonctionnent, sur quel récit fantasmé ils fonctionnent. Parce que si on ne sait pas, si on ne connaît rien des récits historiques fantasmés totalement reconstruits sur lesquels ils agissent, on n'arrivera pas à agir en amont de manière réelle. On n'aura qu'un seul aspect qui sera classique, sécuritaire. On aura uniquement cet aspect-là. Donc on a l'obligation, pratiquement, disons, de faire et de comprendre l'histoire des autres pour pouvoir à la fois la délimiter, peut-être la combattre aussi, hein, l'accepter aussi, mais il faut au moins faire cet effort-là, cet effort de compréhension de l'histoire des autres. Sinon, on est enfermé dans une seule histoire, et cette espèce d'enfermement dans une seule histoire qui peut être dangereuse.
Alors, Alexis brûle de vous répondre, et je lui donne la parole vraiment dans un instant, mais juste avant, je lis ce que vous dites dans le livre du rapetissement de la France. 62, c'est la première fois, au fond, que la France, de son propre gré, au fond, accepte de s'amputer d'une partie de son territoire, puisque l'Algérie, c'était des départements français, hein, c'était pas une colonie. Ce traumatisme fondateur a dû se vivre, écrivez-vous, comme une blessure de l'orgueil national. Est-ce que ça, c'est au cœur du sudisme ?
Oui, moi, je pense que c'est le cœur, parce que c'est le nationalisme français s'est en grande partie renouvelé et reconstruit autour de l'Empire. C'est la question de l'Empire qui a donné une sorte de rebond du nationalisme français à la fin du XIXe siècle. Les conquêtes coloniales, d'ailleurs, qui ont été entreprises avec les républicains, hein, avec la gauche. Hein. Donc en 1880-1914, cette espèce de construction d'un nationalisme politique français, il s'adosse, disons, à la question du nationalisme impérial, à la question de l'Empire. Et c'est vrai que la France, avec la Grande-Bretagne, ont été des grandes puissances immenses qui ont dominé le monde pendant très longtemps. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et le fait de perdre, disons, ces territoires, de perdre, disons, cet empire, oui, c'est un coup porté, disons, au nationalisme français, mais qu'on n'assume pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas en tant que tel, on continue d'avancer, on continue, disons, d'exister, de vivre, etc., sans regarder en face, disons, ce rétrécissement d'histoire. Et là, je cède la parole à Alexis, parce que c'est lui qui a eu
le
mérite de cette formule de l'agrandissement de l'histoire.
L'agrandissement de l'histoire, et aussi dans l'art français de la guerre, il a cette espèce de perception artistique de ce traumatisme en disant « la France sortait de l'histoire, nous décidâmes de ne plus nous occuper de rien ». Et donc on parle beaucoup aujourd'hui de la sortie de l'histoire, de la post-histoire. Est-ce que la France est out ? Jean-Pierre Chevènement, je crois, se posait la question. La France est-elle finie ? Ça date de là ? Ça date de ce moment-là, d'après vous, Alexis, cette obsession française de sortir de l'histoire ?
Bah, c'est possible. C'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Empire a servi de base arrière à une reconquête. La France ne subsistait plus que dans cet empire, et en 45, la France était dévastée. Pour exister encore, il fallait garder cet empire. Il y a eu des troubles divers à différents endroits de l'empire. Ces troubles, on les a matés extrêmement violemment. C'est Sétif en 45, c'est Haïfong en 46, c'est Madagascar en 48. Bon, à chaque fois, il y a eu des mouvements, alors, qui étaient, on va dire, d'un indépendantisme, un indépendantisme réformiste finalement, qui ont été matés extrêmement violemment. Parce que l'idée simple, c'était que la France sans l'Empire n'est rien. Donc on garde l'Empire, quel que soit le coût. Donc ça n'a duré que 20 ans, hein, puisque 20 ans après, tout était indépendant. Bon, il y a cette idée terrible que la France sans son empire elle n'est plus rien, mais en 62, pour résoudre le problème algérien qui prenait des proportions insensées, puisque ça coûtait un prix fou d'un point de vue financier, humain, industriel, etc. Enfin, c'était intenable. De Gaulle a pris la décision d'amputer. Il n'a pas réglé le problème, il a amputé. Et donc, la France, comme je dis dans le roman, la France redevient la France étroite. La France, l'hexagone, comme on dit, la France métropolitaine. Cette France-là, s'imagine une histoire purement métropolitaine. Alors que notre histoire est plus grande que ça. Quoi qu'on en pense, quel que soit son avis, c'est un fait que l'Algérie fait partie de l'histoire de France, oui, comme la France fait partie de l'histoire de l'Algérie.
Dans le spectre politique français d'aujourd'hui, on ne va pas faire de politique bien sûr ici, mais un des seuls responsables politiques à dire que la France, par son passé, est présente dans les cinq continents, par la langue française bien sûr, mais aussi par son influence culturelle, par ses métissages de mémoire, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est très symptomatique d'ailleurs de voir qu'il y a cet oubli complet du fait que la France, c'est pas simplement un pays européen, blanc et chrétien.
Tout à fait, c'est un pays mélangé, c'est un pays d'immigration, c'est un pays avec des outre-mer qui ont été colossaux, et ça fait partie de notre identité. Notre identité, c'est un récit, notre identité, c'est une histoire, notre identité, c'est un roman. Alors après, pour en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, à propos de l'essence, de l'identité, faire de l'essentialisme, c'est une absurdité historique, à mon sens, une absurdité scientifique. C'est-à-dire que l'essentialisme ne produit pas de connaissances, puisque de toute façon, on a décidé que l'ADN de l'islam, que l'ADN de la France, ou que l'ADN était ça, et donc du coup, toutes les manifestations ne sont que les manifestations de ce programme qui se déroule. Voilà. Donc ça, c'est absurde,
mais quand même,
ça n'explique rien.
À vous lire, moi je me posais une question que, à mon avis, nos auditeurs vont se poser quand ils vont lire votre livre qui est passionnant, mais comment donc les sudistes, hein, puisque vous les appelez comme ça, qui construisent une mémoire victimaire en quelque sorte, hein, sont les vaincus de l'histoire. Ils ont perdu en 62. Bon, comment donc ces rapatriés, disons les plus vindicatifs, les plus aigris d'entre eux, peuvent-ils se mettre à infuser dans l'ensemble de l'imaginaire national? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils prennent une telle importance symbolique, pour que leur représentation prenne une telle importance symbolique, d'après vous? Qu'est-ce qui a pu se passer en 50 ans?
Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement sentiment de déclin, crise des institutions, précarisation généralisée. Je sais pas. Et toutes sortes de choses qu'il faudrait analyser et qui font que. Alors, ce qui est très très frappant. Alors, pour en revenir au sujet, quand on voit au moment de l'OAS. Comment, face à la fin programmée de l'Algérie française, comment se structurent des groupuscules violents, identitaires, autour de quelques chefs notables, mais sans vraiment de structure politique, sans projet politique, on est fasciné de voir comment des structures semblables, c'est-à-dire des mouvements identitaires, violents, sans vraie structure politique et sans vrai projet politique, se mettent à être une solution, à paraître comme une solution possible. Et ça, il y a une étrangeté. C'est-à-dire que, on le dit au début, c'est-à-dire comment ça se fait que cet imaginaire du Front National, qui est quand même pas très cohérent, en termes politiques, en termes économiques, en termes institutionnels, dans tous les termes qu'on veut, c'est pas très cohérent. Comment ça se fait que ça existe Et deuxièmement, comment ça se fait que ça existe encore? Et comment ça se fait que ça corresponde à une sorte de réflexe de beaucoup de gens qui vont se réfugier là-dedans? Et c'est, pour moi, c'est un grand mystère. Il y a nécessité d'y réfléchir.
Benjamin va vous répondre aussi là-dessus, hein, mais pourquoi ils sont en train de gagner en quelque sorte la bataille culturelle, hein, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Mais le sudisme, évidemment, doit, j'imagine, je suis pas politologue, mais concerner un Front National plutôt du sud méditerranéen, du sud-est, plus que le Front National ouvrier, anciennement communiste, du nord et de l'est de la France, j'imagine. Hein.
Alors, on peut imaginer aussi ce sudisme comme une sorte de formation réactive. C'est-à-dire, face à un monde qui se déglingue, il y a un réflexe, non pas politique, mais un réflexe de dépolitisation et de réaction brutale, violente, identitaire. Qui est le réflexe identitaire est sans fin, parce que l'identité c'est quelque chose qui a pas vraiment de contenu très positif. Quand on essaye de définir ce que c'est qu'une identité, on est bien embêté. On peut dire qu'elle est souffrante, on peut dire qu'on la perd, on peut dire que... Mais la définir véritablement, c'est très 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 difficile. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de formation réactive, de réaction. Face à tout qui a l'air de se déglinguer, on va se resserrer sur des réflexes habituels qui sont bien ancrés dans notre inconscient collectif.
Merci beaucoup Alexis. Formation réactive, vous êtes d'accord Benjamin ?
Oui, non mais c'est moi je pense que cette mémoire... que j'avais qualifié de sudiste, enfin avec ce côté, disons, de séparation, d'hiérarchisation par communauté, d'une société, etc., elle était ghettoisée pendant très longtemps. C'était une mémoire ghettoisée, celle de vaincus de l'histoire, et qui, effectivement, était essentiellement dans le registre de la nostalgie de la souffrance pendant très longtemps, etc. Qu'est-ce qui fait que cette mémoire ghettoisée, c'est la question soulevée, ait pu se disperser à ce point dans la société française? D'abord, je pense que c'est une question politique. C'est-à-dire que la droite républicaine gaulliste traditionnelle a progressivement effacé les frontières entre elle et cette extrême droite. Elle a effacé les frontières.
Disons que ce qui a été le catalyseur de
moi, cette espèce que c'est une question très importante.
De rupture de la barrière d'espèce.
Oui, entre la droite. Entre la droite républicaine traditionnelle.
C'est le jeu de conseillers comme Patrick Buisson, hein, Ils ont abaissé cette barrière.
C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette barrière, cette frontière quand même qui était forte entre une extrême droite qui avait voulu tuer De Gaulle, parce que c'était physique, encore une fois, c'était pas une question d'idéologie, hein. Il y a eu, je ne sais pas combien, de tentatives d'assassinat du général de Gaulle. Et donc, entre cette droite gaulliste, républicaine, démocrate chrétienne, classique, disons, hein, au sens historique, disons, du terme, et cette extrême droite, héritage à la fois, bien sûr, du vichysme, de l'empire colonial perdu, etc., cette frontière, elle a tenu pendant très longtemps. Et puis, progressivement, eh bien, elle s'est délitée et au point de s'être pratiquement effacée, où on a retrouvé dans les rangs du parti gaulliste, par exemple, des députés de Nice ou autres, une femme en particulier, dont le père était un grand responsable de l'OAS, par exemple, et qui était naturellement élu député de la région de Nice, parce que dans un parti considéré comme, entre guillemets, gaulliste. Alors là, personne n'y a vu malice, hein, c'était quand même normal. Ben non, c'était pas normal du tout, parce que là, il y avait quand même un passage de frontières, quand même, qui était très important. Donc je crois que cet effacement de frontières symbolique est fondamental. Fondamental. Il y a une deuxième chose qui est fondamentale sur la fin de ghettoisation de cette mémoire, c'est, comment dirais-je, le fait qu'il y a une deuxième frontière qui s'est effacée progressivement, c'est celle de la gauche socialiste traditionnelle. Quand je dis socialiste traditionnelle, c'est communiste, socialiste, extrême gauche, tout ce qu'on veut, enfin de la gauche au sens classique du terme, qui offrait, disons, à l'extrême droite une alternative large en termes de progrès humain, d'humanisme, de projets de société au sens large, j'allais presque dire d'utopie, hein, d'une société républicaine, généreuse, ouverte à tous, où le vivre ensemble dominait, dans l'antiracisme. Bref, cet espace politique ancien, qui part grosso modo de la Révolution française jusqu'au Dreyfusard, en passant par le Front populaire, la Résistance, enfin bref, tout ça est connu, ben, cet espace politique-là, et qui existait en proposant, disons, un projet alternatif, généreux et ouvert, lui-même est entré dans une crise profonde. Il est rentré dans une crise profonde, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus apporter, notamment suite à l'échec, la crise, tout ce qu'on voudra, la chute du mur de Berlin, la crise, disons, du communisme, stalinisme, le socialisme, bien entendu, etc. Et ça, c'est une deuxième grande...
Il apparaît comme une sorte de copie de gauche du libéralisme. Voilà,
alors, donc... aux yeux de beaucoup de gens, c'est pour ça que c'est pour répondre à la question que vous avez soulevée, c'est-à-dire que c'est cette mentalité, disons, applicable à des populations regroupées géographiquement dans le sud de la France, eh bien, c'est diffusé dans toute la France. C'est-à-dire que c'est un aspect, c'est un rapport, disons, qui est très important et qui date effectivement, à mon sens, de ces effacements de frontières sur le plan politico-idéologique. Bon, ça, c'est un autre aspect. Puis il y a un troisième aspect, parce qu'il faut dire toute la gamme, c'est effectivement au sud de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, le manque de progrès sur la question de la démocratie politique. C'est fondamental. C'est-à-dire que ça nourrit aussi, je veux dire, les crises, les angoisses, les peurs identitaires. Je veux dire que le fait de déboucher, après la décolonisation, sur des États démocratiques, sur des sociétés démocratiques, où les droits de l'homme, la citoyenneté, l'égalité soient respectés, etc., eh bien, toutes ces promesses qui étaient, elles, bien réelles dans les guerres d'indépendance, ce n'étaient pas des promesses religieuses, c'était ces promesses-là. Hein, qui étaient formulées et qui n'ont pas été réalisées, qui n'ont pas été tenues. Donc on a le sentiment de l'impasse, bien sûr. Et dans le sentiment de l'impasse, il y a le sentiment de la peur, hein, y compris qui se réfracte au nord. Donc on a toutes ces causes qui viennent se mêler, qui viennent se mélanger, parce que la France est dans la mondialisation politique et culturelle. Ce n'est pas un pays séparé de la mondialisation, c'est-à-dire une mondialisation qui est celle de la crise du communisme, du socialisme, la montée en puissance de l'islam politique, l'absence d'alternatives démocratiques, la proposition de politique libérale comme seul modèle d'explication possible dans la société, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça provoque effectivement des replis, des angoisses, disons, sur des histoires, là aussi, reconstruites, fantasmées, imaginaires, etc., etc. Donc voilà, en mon sens, ce qui explique la sortie du ghetto. C'est-à-dire que c'est une mémoire ghettoisée qui est sortie et qui s'est diffusée comme une sorte de modèle alternatif de rupture, hein, par rapport, disons, au système, comme on dit aujourd'hui, existant, et qui s'est proposé comme un modèle de rupture. Et ça, c'est redoutable. C'est un défi redoutable.
Diagnostic donc parfait. Dans un instant, on va venir peut-être aussi aux solutions. Alors, quelques minutes, Alexis.
Une quatrième explication aussi, je pense, qui est importante, c'est l'impossibilité pour la gauche de penser le Front National. C'est-à-dire qu'avoir le Front National comme héritier de Vichy, du fascisme, voire du nazisme, en le mettant à l'extrême droite et en rejouant en fait une sorte d'histoire de gauche où on se rejoue à la guerre d'Espagne dans une lutte antifasciste, c'est faire une sorte d'écran qui empêche de voir véritablement ce que c'est. Et à l'abri de cet écran, en effet, le Front National peut en effet s'étendre. Les gens que l'on traite de nazis, ils savent bien qu'ils ne sont pas nazis. Et ils savent bien que c'est une explication tout à fait fausse. C'est en fait un fantasme de gauche, un fantasme héroïque en fait de gauche. Et ce qui est, ça a été terrible en fait, cette espèce de filiation un petit peu approximative qu'on a gardée pendant très très longtemps, parce que ça empêchait de voir la véritable nature de ce que c'était. Et notre tentative, nos propositions, c'est de décaler un petit peu l'analyse pour qu'après, d'autres que nous y réfléchissent, pour sortir de cet aveuglement.
Alors, réinstituer la République, rassembler les Français, ça va être un leitmotiv, disons, politique dans l'année qui va venir, hein, politico-idéologique, sur la scène politique et idéologique, c'est les deux priorités qui vont ensemble, refaire la République, rassembler les Français. En quoi ça suppose d'agrandir l'histoire de France, pour reprendre votre belle formule, Alexis?
C'est d'essayer de comprendre notre histoire, de la savoir, de l'élucider un petit peu plus. Alors c'est vrai que là, je suis un peu mal à l'aise pour imaginer de véritables solutions politiques, car je ne suis pas dans ce domaine-là, mais Il y a, je crois, une nécessité de connaissance qui est fondamentale. On a parlé de Daesh tout à l'heure, on dit oui, la priorité c'est quand même la sécurité, oui, mais le sécuritaire qui ne s'appuie pas sur une vraie connaissance, ça ne protège de rien. Donc si on veut un sécuritaire qui nous protège, il faut savoir quel est l'adversaire, il faut savoir d'où il vient, comment il se produit, quelles sont les situations diverses qui produisent ça, qu'est-ce qui fait que... alors ça, c'est un de mes collègues écrivains, Jérôme Ferrari, qui a dit cette chose qui est très simple, mais qui est profonde. Qu'est-ce qui fait que, dans la France d'aujourd'hui, il est désirable pour un certain nombre de jeunes gens d'aller en Syrie? C'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que c'est désirable d'aller en Syrie? C'est un problème qu'il faut élucider. Tant qu'on ne l'aura pas élucidé, on pourra mettre autant de militaires dans les rues qu'on veut. Aucune sécurité sera là.
Bon, bah vous avez quand même répondu à cette question politique. Hein, vous voyez. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre dialogue. On passe tout de suite aux questions. Je pense qu'il y en a plein. On est désolé d'avoir un tout petit peu débordé sur votre temps de parole à tous. Et les micros vont passer dans les travées. Merci par avance à Alexis. L'autre, le troisième Alexis, Alexis Corbière.
Oui, bonsoir. Donc, je suis franco-algérien et historien-chercheur. Je m'intéresse à l'histoire d'Algérie. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité collective qui n'est pas limitée à l'extrême droite en matière de l'enseignement de l'histoire, donc notamment cette grande partie de l'histoire de France, qui est la guerre d'Algérie.
Bonjour, je vous remercie beaucoup. En fait, je me posais la question de savoir si dans le problème du Front National et de le faire passer uniquement pour les détenteurs du nazisme, il n'y avait pas le problème de la collaboration et de l'histoire de la France elle-même qu'on a évacuée et qu'on n'a jamais réglé complètement et qui a permis de diaboliser les gens et d'évacuer le problème de la France de cette époque.
Merci beaucoup. Oui.
Moi, je me gêne quand on parle de l'Algérie, comme si l'histoire commençait en 1954 avec la guerre de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie a commencé en 1830. Et là, je pense qu'on ne met pas beaucoup l'accent sur l'existence algérienne depuis le début de la colonisation, en passant par Mokhrani en 1801, en passant par Emir Khaled, le fils d'Abdelkader, etc. Donc l'Algérie a été constamment, depuis le début de Sidi Frej, jusqu'à 62 en lutte contre le...
Merci. Alors, Alexis, oui, allez-y.
Oui, alors, c'est pas une méconnaissance de l'histoire longue de l'Algérie. Simplement, alors, moi, je me suis intéressé à ça au départ pour des raisons purement romanesques. Et pour des raisons quasiment naïves, c'est-à-dire... Je me suis dit, tiens, voilà une histoire, enfin l'histoire coloniale française, enfin plutôt l'histoire des guerres coloniales, c'était une histoire finalement totalement vierge du point de vue romanesque. Et en plus, ça me semblait être en relation avec les troubles de la France contemporaine. Donc au départ, j'y connaissais rien, et je me suis intéressé à une sorte de période qui me semblait vide en termes historiques et romanesques. Et en plongeant là-dedans, eh ben, j'ai découvert tout ce que c'était. Mais c'est vrai que c'était un roman qui traitait des guerres coloniales, donc qui ne traite que de toute une partie de petite partie de l'histoire. Mais je suis bien persuadé, et dans le roman que j'avais écrit, donc, c'est dit clairement que la guerre et ne fait même. En plus, ce que je disais, c'est que la torture dont on parle toujours quand il est question d'Algérie, ne fait que cacher la guerre, et la guerre ne fait que cacher le fait colonial. Et le fait colonial, qui date en effet, qui datait de plus d'un siècle. Et le fait colonial est quelque chose qui n'est pas vraiment pensé, qui n'est pas vraiment... qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Quel est le sens? Quel est le sens pour la République d'avoir des colonies, d'avoir un empire? Ça, c'est quelque chose qu'on préfère ne pas penser. Voilà. Et donc, on se cache derrière des écrans successifs. Et moi, j'ai découvert ça en écrivant un roman qui est, au départ, un simple roman, qui n'a pas vocation à être exhaustif. Hein. Moi, je racontais une histoire. Mais en racontant cette histoire, j'ai raconté cette histoire parce que justement il y avait un grand vide, il y avait un grand vide historique et romanesque autour de ça.
Benjamin.
Oui, alors l'histoire de l'Algérie ne commence pas avec l'arrivée des Français en 1830. C'est un petit peu avant. C'est une précision historique. C'est pas avec les Français. Donc bon, non mais c'est juste, il me plaît. C'est parce qu'il faut sortir un peu avec les Français et tout ça. Bon, c'est une parenthèse. Hein, bon, avec la résistance, tout ça. Bon, non, sur la question de l'islam et la question coloniale, il y a des choses assez étranges qu'il faut connaître aussi. Ça, il faut savoir. Bien sûr que la question de l'islam en Occident renvoie au problème de la peur en rapport avec les croisades, une vieille histoire d'affrontement, etc. Mais dans l'histoire coloniale, il y a quelque chose qui est très intéressant à analyser, dans l'orientalisme français en particulier, c'est aussi la fascination de l'islam. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'orientalistes, à la limite, je dirais, il y avait plus d'orientalistes connaissant l'islam et la langue arabe à la fin du 19e et au début du 20e siècle qu'aujourd'hui. C'est un paradoxe, quand même, assez étonnant, c'est assez étrange, quoi. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'était à des fins de conquête, hein, je précise quand même, à des fins de quadrillage d'espace, de domination ou autre, etc. Mais l'intérêt et la connaissance qu'on pouvait avoir, disons, et donc de la fascination et de la conversion même, d'intellectuels, enfin bon, il y a l'exemple célèbre d'Isabelle Eberhardt, etc., était beaucoup plus important à la fin du 19e au début du 20e qu'au 21e siècle. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, dans la connaissance qu'on peut avoir de l'Orient au sens large, on a régressé. C'est-à-dire dans la méconnaissance de l'Orient. Dans la connaissance-méconnaissance de l'Orient, il y a une régression. Les grands orientalistes français, qui ont beaucoup travaillé, disons, sur ces questions-là, dont les plus célèbres sont, par exemple, Louis Massignon ou Jacques Berck, hein, qui étaient des personnages considérables, n'ont pas leur équivalent aujourd'hui, parmi l'intelligentsia française. Il n'y a pas leur équivalent. C'est-à-dire, bon, de la connaissance qu'il pouvait avoir. Je pense aussi, par exemple, à un personnage comme André Chouraki, aussi, qui avait traduit, disons directement, le Coran de l'arabe au français et du français à l'hébreu. Enfin, bref, tous ces personnages très, très importants, hein, Massignon, Chouraki, Berck, etc., on n'en trouve plus la trace aujourd'hui, et c'est très symptomatique, disons, de l'état intellectuel dans lequel nous nous trouvons dans la société française. C'est ça que je veux signaler. C'est-à-dire que,
Une France rapetissée, en fait.
C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus à réellement l'histoire de l'autre, hein, mais on fonctionne sur la base simplement de fantasmes ou de clichés, etc. Et c'est une précision que je voulais apporter par rapport à cette question. Hein, parce que sinon, on reste dans des trucs un peu simples, hein, du style des croisades, l'islam, l'Occident, etc. Bon. Mais vous savez, il y a des intellectuels français très catholiques, très chrétiens, très engagés, qui ont été les premiers à combattre sur la question coloniale, notamment pendant la guerre d'Algérie. Je pense à la grande figure de François Mauriac ou d'André Mandouze, qui ont été des chrétiens très engagés. Hein, ce qui veut dire que la représentation qu'on peut avoir aussi d'espèces de coupures radicales, hein, disons, entre islam et occident dans une guerre perpétuelle, ne correspond pas non plus à la réalité historique. C'est-à-dire que les chrétiens engagés dans la guerre d'Algérie, bon, je prends cette séquence, je pourrais prendre d'autres séquences antérieures, Monseigneur Duval, etc., enfin, je vais pas citer tous les noms, disons, montrent au contraire que les choses étaient beaucoup plus compliquées que ça, hein, dans la façon de percevoir l'Orient et dans la façon de concevoir l'islam. C'était pas aussi simple. C'est ça que je veux dire par là, hein. C'est que, à force d'avoir des discours aujourd'hui radicaux tranchés dans des espaces clos et délimités, on contribue à la guerre des mémoires. C'est-à-dire qu'on accroît la guerre. Hein, on vise, disons, comme le disait justement Alexis tout à l'heure Lacroix, cette sorte de réessentialisation. Ça, c'est très fort, ça. Ça, j'aime beaucoup ce terme. Qui vise, disons, à séparer. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une séparation. Tout le combat qu'a mené Jacques Berck jusqu'à la fin de sa vie, hein, ça a été précisément l'inverse de ça. C'était l'inverse de ça. C'est-à-dire de mieux connaître la civilisation, la culture de l'autre, et établir les passerelles, les ponts. Je pense aussi à la grande figure de Mohamed Harkoun, bien sûr, hein, qui a été aussi dans, la circulation et dans le passage.
On peut dire que...
je saisis l'occasion, hein, pour nuancer.
Ouais. Et moi, je saisis aussi l'occasion pour dire qu'un lieu comme le musée que vous présidez, c'est un lieu justement qui peut combattre ce renfermement culturel. Hein.
Bah, c'est ce qu'on essaye de faire effectivement à travers le musée de l'immigration, c'est d'essayer de comprendre en quoi l'histoire des autres a en partie, je ne dis pas complètement, mais en partie, contribué à fabriquer l'histoire de France. Bon, ça, c'est ça hein, le but de ce musée d'histoire, c'est-à-dire le fait qu'on n'a pas une identité fixe donnée de tout temps et qui n'a jamais bougé. Au contraire, il y a une sorte d'évolution, mais aussi de régression, de combat, de conflictualité. Je ne nie pas la conflictualité hein, dans la question que vous soulevez, mais dans la conflictualité traditionnelle qu'on énonce classiquement aujourd'hui, qui est le discours dominant, en fait, fondamentalement, eh bien, il y a d'autres personnages, il y a d'autres histoires, et je pense en particulier aussi, parce que ça me revient à l'esprit, du grand écrivain catholique Pierre-Henri Simon, qui a écrit le premier ouvrage contre la torture en Algérie. C'était pas Henri Alleg, mais c'était lui. Hein, contre la torture, c'était en 1957 aux éditions du Seuil, Pierre-Henri Simon, hein, écrivain catholique engagé, et ça, y compris, je pense à Témoignage chrétien, je pense à tous ces personnages qui ont évolué dans ce sillage-là, donc il faut essayer aussi de remettre en scène, remettre en perspective historique, parce que sinon on est tout le temps dans l'altérité radicale, dans l'affrontement, c'est fatigant, franchement c'est fatigant.
Et ça ne correspond pas à la vérité. En plus,
ça ne correspond pas à la vérité. Mais c'est fatigant.
Par contre, ce qui est terrible, c'est qu'à force de conflits, ça finit par correspondre à la réalité. C'est-à-dire que, en fait, la réalité est mise en forme par les conflits. Quand on voit l'histoire de l'Algérie, dans la guerre, il y avait au moins une 10 ou 12 parties en cause. Ce n'était pas au départ les Algériens contre les Français. C'était les Algériens ne constituaient pas un groupe uniforme, les Français ne constituaient pas un groupe uniforme. Tous ces groupes se sont affrontés, etc. Et d'autres voies étaient possibles. Mais petit à petit, la guerre devenant de plus en plus radicale, on s'est retrouvé avec un affrontement net et avec maintenant une séparation nette. Mais cette séparation, elle n'était pas du départ. C'est le conflit qui a produit la séparation.
Merci beaucoup. Alors peut-être un deuxième et dernier tour de parole.
Ne pensez-vous pas que la propagande médiatique et la dérive inconsciente de la société civile participent à la perte des valeurs de la France et qui creusent le fossé entre différentes ethnies ? L'esprit postcolonial n'est-il pas encore trop ancré dans la société française ?
Merci.
On parle du choc des mémoires, et il se trouve qu'on parle d'un pays qui est l'Algérie, et Benjamin Stora, dans tous ses écrits, parle le lien charnel qui existe entre ces deux pays. Et il se trouve qu'aujourd'hui, un des débats fondamentaux qui touche notre pays, c'est la déchéance de la nationalité, où on veut gommer, une partie de la gauche veut gommer, donc cet aspect sur les binationales. En face, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a une constitution qui est en train de s'écrire, de se réécrire, où justement les binationaux, nous parlons clairement, donc c'est-à-dire les franco-algériens, ne pourraient plus accéder à des postes de responsabilité. Bon, la question s'adresse forcément à Benjamin, qui connaît parfaitement ce pays, et tu connais bien l'histoire de l'indépendance algérienne, qui est née où ? Elle est née ici, en France. Ce sont des immigrés algériens basés en France qui ont eu le premier l'idée d'avoir l'indépendance algérienne. Et je te remercie de rappeler, Benjamin, que certains avaient des femmes françaises, et notamment Messali Hadj, qu'on considère comme le père du nationalisme algérien, sa femme était française. Merci de pouvoir y répondre.
Pour répondre, disons, à la question soulevée, il y a une interaction étroite entre l'économie et le culturel et le politique. C'est évident, je veux dire, surtout dans la mondialisation dans laquelle nous sommes. Il ne peut pas y avoir d'impunité dans les paroles prononcées et qui ne se traduisent pas par des sanctions économiques. On ne peut pas indéfiniment, disons, avoir des discours de rejet, d'exclusion, de diabolisation des autres, sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait eu des sanctions et des punitions économiques. C'est ça qui guette aujourd'hui. On ne peut pas avoir le double discours. Hein, le discours de l'économie, on est tous solidaires, on vient investir chez vous. Et puis sur le plan politique et culturel, vous êtes des barbares, vous êtes des sauvages, etc. Non, c'est fini tout ça. Je veux dire, les gens sont pas cons. Hein, ils font tous le lien, hein, ils écoutent tous la télé, font tous Internet. Hein, tout le monde est au courant de tout maintenant, c'est fini tout ça. Et donc on peut pas continuer comme ça. Je veux dire qu'il faut se donner au minimum la peine de comprendre l'histoire des autres. Parce que sinon, on va être isolé. Disons sur le plan international, sur le plan économique. Hein, alors c'est tout l'effort que font effectivement des débats comme celui de ce soir. C'est pour répondre là aussi au monsieur qui a posé la question tout à l'heure. C'est qu'il y a aussi en France quand même des forces de contre-proposition. Il y a quand même des gens qui se battent sur la question de la binationalité, la déchéance, sur la question de la République. Il y a quand même en France des forces républicaines et démocratiques qui existent, disons, sur le plan politique et sur le plan culturel, le font savoir. La France n'est pas devenue une société totalement déclinante, finie, etc. Il y a, comme le débat le prouve ce soir, il y a quand même, heureusement, des forces actives, hein, des forces en mouvement. Donc moi, je ne suis pas, disons, quelqu'un qui considère que tout est fini. C'est la pensée décliniste. Tout est fini, c'est foutu, préparons-nous à la guerre, puisque tout est fini maintenant. C'est fini, la séparation est totale, donc maintenant, armons-nous et partez. Donc c'est... Non, je ne suis pas, disons, sur cette position-là. L'histoire n'est pas écrite d'avance, elle n'est pas jouée, la pièce n'est pas jouée encore.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces conclusions importantes qui dessinent, au fond, une ligne programmatique pour le musée lui-même, hein, comme acteur politique d'un rassemblement des Français. Alexis, un dernier mot, c'est dur de conclure. Hein.
Donc oui, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans l'intégration, c'est clair, c'est du gâchis, c'est clair. Voilà. Mais c'est pas uniquement une histoire gouvernementale, je pense que c'est quelque chose qui est complètement inséré dans la totalité de la société. Par rapport à la guerre d'Algérie, je pense que c'est une guerre mal nommée, c'est clairement une guerre civile qui laisse des traces, comme toutes les guerres civiles, des traces profondes entre nous tous. Pour terminer rapidement à propos de l'histoire de la déchéance de nationalité, de la double nationalité, je trouve que c'est un projet honteux et débile. C'est aussi imaginer qu'une double nationalité, c'est une sorte de double allégeance, alors qu'en fait, c'est tout simplement une histoire individuelle particulière. Ça pose pas de problème d'allégeance et essayer de brandir cette espèce de symbole qui n'a aucune efficacité, brandir ce symbole, c'est rajouter une faille là où elle existe déjà. C'est laisser entendre qu'il y a parmi nous des gens qui seraient pas tout à fait pas tout à fait français, et c'est créer de façon juridique ce concept totalement idiot qu'est le français de souche. Donc voilà, c'est en fait c'est quelque chose qui me met en colère depuis que les mots ont été prononcés depuis quelques semaines.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexis Génie. Vous n'avez pas évité finalement les engagements politiques. Hein. L'écrivain est sorti de son apolitisme. Merci en tout cas à toutes vos questions. Merci à tous les deux, vous avez été passionnants. Je rappelle le titre de votre livre à deux, hein, Alexis Génie et Benjamin Stora, Les mémoires dangereuses, suivi du transfert de mémoire aux éditions Albin Michel. Vous allez dans un moment d'ailleurs, dans un instant, le dédicacer à tous ceux qui veulent se le procurer pour prolonger le débat. C'était donc la sixième, Benjamin. La septième sera dans deux semaines, le 17 mars à 19h, et elle sera consacrée aux effacés des mémoires postcoloniales, l'exemple des Hmong, et vous aurez Benjamin comme invité, Françoise Vergès, et Safoy Babana Hampton. Venez nombreux, merci à tous.